les bonnes feuilles. De la rentrée littéraire, lu par leur auteur. Aujourd'hui, Sœur de Miséricorde, de Colombe Schneck, aux éditions Stock.
Où tu renonces à baiser toutes les autres, où tout est fini entre nous. C'était à devenir fou. C'était invraisemblable et totalement imprévisible. Mais tel fut l'ultimatum qu'une femme de 52 ans adressa en larmes à son amant de 64 ans le jour anniversaire d'une liaison incroyablement débridée qui durait et qu'ils avaient réussi, chose non moins incroyable, à garder secrète depuis 13 ans. Maintenant, avec le reflux des sécrétions hormonales, avec la prostate qui grossissait, avec sans doute pas plus de quelques petites années devant lui, à pouvoir encore à peu près compter sur sa virilité, avec peut-être pas tant d'années que ça à vivre, là, au moment du commencement de la fin de tout, et sous peine de la perdre, il était mis en demeure de changer de tout au tout. C'est le terme de Sabbat de Philippe Roth, traduit par Lazare Bitoun dans une publication chez Gallimard.
Il y a cette espèce de cliché que Philippe Roth sera un écrivain misogyne. Pour moi, c'est un écrivain qui aime les femmes. Et dans ce roman-là, il y a une de mes héroïnes préférées de Philippe Roth. Elle s'appelle Drinka. C'est la femme dont il parle. Elle a une cinquantaine d'années. Elle a un visage assez banal. Elle est un peu boulotte. Et elle est incroyablement intelligente, drôle, courageuse, aimante, sensuelle. Et Michael Sabbat a un désir fou pour elle. Il parle de ses rides, de son embonpoint, de sa poitrine un peu fripée, avec un désir et un amour extraordinaire. On est tout de suite dans le livre et dans l'essentiel du livre. Il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de chemin. C'est ce que j'aime chez lui, chez sa brutalité, sa sincérité. Drinka est une magnifique héroïne, c'est pour ça que j'aime ce livre. Ouais.
Colombe Schneck, vous publiez un nouveau roman, cette rentrée littéraire, qui s'intitule « Sœur de Miséricorde » et qui paraît aux éditions Stock. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez commencé à l'écrire ?
Je dirais que c'était il y a une dizaine d'années, quand j'ai rencontré une femme qui ressemble à l'héroïne de livre, qui n'est pas l'héroïne de livre, mais qui m'a dit cette phrase extraordinaire. C'est une femme qui venait de Bolivie, une famille analphabète, de paysans, qui n'avait pas de papier, qui n'avait pas vu ses enfants depuis 2 ans. Moi, je venais d'accoucher d'une petite fille. Et elle m'a dit cette phrase dont je ne reviens toujours pas. Elle m'a dit « Est-ce que je fais assez pour vous ? Est-ce que je vous donne assez ?» Il me semble qu'on m'avait jamais dit ça, que personne ne m'avait dit ça depuis des années et des années. Je n'en revenais pas qu'on me dise quelque chose d'aussi généreux et que je mérite qu'on me donne quelque chose. Et c'est, je crois que c'est de cette phrase-là que vient ce livre, oui.
Et après, concrètement, il y a un jour où on se met à écrire un livre, celui-là.
C'est difficile. Je pense que c'était quand j'ai commencé la réparation et que je m'interrogeais sur mes grands-parents, une famille immigrée qui eux aussi n'ont pas eu de papier, qui ont été naturalisés, et je m'interrogeais sur mes origines étrangères. Et j'avais cette femme à côté de moi. Je n'ai pas, voilà, à ce moment-là, je n'écrivais pas sur elle, j'écrivais sur ma famille. Mais il y a toujours cette interrogation sur d'où je viens, comment je suis arrivée en France, pourquoi je suis devenue française, comment j'ai pu devenir française. Et sur, oui, le parcours de l'immigration qui concerne un Français sur 4 aujourd'hui.
Alors, on va écouter le début de ce roman, c'est Sœur de Miséricorde.
Azul se prépare un Nescafé, 2,45 € la boîte de 500 grammes au Lidl. Four dans le sac de cuir gris, offert par Madame Isabelle, une poche en toile qu'elle a cousue avec un reste de tissu de la robe de communion d'une des petites. Dans ce sac en toile, elle glisse sa carte de séjour valable pour l'année 2007, un porte-monnaie rouge avec 6,80 € en pièces, elle a compté la veille, son téléphone un Nokia en plastique bleu et blanc à la sonnerie chantante, un livre à la couverture plastifiée emprunté au bibliobus de Ris-Orangis. On lui a déjà volé ses affaires dans le RRC, depuis elle fait attention. Le bus 402 part à 5h23 de l'avenue Auguste Pla,
direction Treille. Elle descend à la gare de Grigny à 5h30. À 5h35, elle attrape le RER qui l'emmène à Juvisy, où elle change pour le C, qui va vers la gare d'Austerlitz à Paris. Nouveau changement vers Henri Martin. À 7h15, elle ouvre la porte du 53, rue de l'Assomption, Elle a sa clé pour préparer le petit déjeuner des petites avant de les emmener à l'école. Ça, c'est dans l'idéal. Le plus souvent, elle doit prévenir Madame Isabelle qu'elle va être en retard. Le 402 a été caillassé. Le conducteur est en arrêt maladie, la ligne C est en travaux, Henri Martin est fermé. Elle aurait préféré trouver un logement sur les lignes A ou B. La C et la D sont les pires. Assoul est debout sur le quai A, direction Paris. Elle assiste à une conversation entre deux filles. Elles ont trouvé une place, assises sur un banc. Les visages sont cachés par les capuches de leurs sweatshirts. Elles doivent être au collège. Elles sont agitées, parlent fort d'une troisième. Leur sœur ? Une des filles en colère répète « Cette sœur, cette sœur ». La sœur a réussi un truc, peut-être une bonne note, un stage ou un devoir. Ce qui est clair, c'est que la sœur, celle qui a réussi, est une pute pour les deux filles en capuche. La fille crie « Une traîtresse, notre sœur, une pute, je te dis une pute ». À 5h45, à la gare de Juvisy, il ne fait pas plus de 3 degrés. Mais ce qui glace Assoul, c'est la brutalité de ces mots ensemble. Comment est-ce possible? Une sœur que l'on connaît depuis l'enfance, qui a la même mère, le même père, comment peut-on ne pas se réjouir pour elle? Assoul aussi avait été traitée de pute au collège, mais ce n'était pas par sa sœur à qui elle doit tant. Avant d'être cette femme coincée dans le RERC, puis D,
glacée sur un banc à la gare de Juvisy, Asile et au début des années 70, cette petite fille capable de sauter dans le Rio Chico sans être emportée. Le Rio Chico était un des fleuves du luxuriant bassin amazonien situé au sud-est de la Bolivie. Il est traversé d'un fort courant, mais la sœur d'Asile lui a appris à se laisser entraîner par les flots vers une minuscule plage de sable. Le village de Chuquichuqui, des maisons de terre où vivent une trentaine de familles, tous des indigènes quechua, cultivant leur jardin au bord de la rivière et protégés des crues du Rio Chico par un muret de pierre d'1,50 m de hauteur. C'est de ce muret qu'Azul et les enfants plongent et plongent encore sans jamais se lasser. Il faut savoir s'arrêter à l'arrivée de l'eau noire. Quand il a plu dans les montagnes, une eau boueuse que les enfants appellent l'eau noire se déverse dans la rivière. Cette eau troublée s'est évacuée en quelques heures, mais elle est le signe qu'il est temps de rentrer à la maison. Le Rio Chico devient dangereux et la petite plage de sable et le muret ne protègent plus de rien. Pour rejoindre la maison, Azul traverse le jardin de sa mère, un terrain d'un hectare planté d'arbres fruitiers, goyavés, manguiers, mandariniers, poiriers, avocatiers, pommiers, citronniers. Azul se serre à même l'arbre et croque dans les fruits, crachant la peau et les pépins par terre. Azul en est persuadé, ce sont les meilleurs fruits du monde, très sucrés, avec peu de pépins. Les goyaves se fendent d'un coup de pouce, elles sont d'un rose tendre qu'Azul n'a jamais vu ailleurs, même au marché de Sucre ou de Cochabamba. 5 manguiers offrent des fruits aux goûts différents. Jimena, sa mère, préfère les petites rositas plus suaves. Azul choisit des mangues plus rondes et plus juteuses, dont le jus coule sur le menton. Il lui semble que le choix est infini. Des bananiers, des citronniers, des melons, de la quilquina, une herbe amère, des palmiers dont les minuscules fruits font tant de bruit en tombant de l'arbre qu'il vous réveille si vous avez eu l'étrange idée de faire la sieste en dessous. Ils sont les preuves que le paradis existe. Ce jardin au bout de la rivière fait vivre la famille. Son grand-père paternel l'a reçu lors de la réforme agraire de 1958. Les propriétaires espagnols partis, les grands-parents avaient obtenu 1 hectare de terre. Grâce à ces jardins et la rivière, le village est le plus riche de la vallée. Avant de remonter vers la maison, Azul plie son tablier afin de fabriquer un sac de toile qu'elle remplit de fruits. Elle traverse les jardins riverains, il n'y a aucune barrière. Sur le chemin, elle échange ses goyaves contre des tomates, des oignons, des voisins. C'est un marché où se mesurent les désirs, les besoins et les offres, selon les saisons et les humeurs. Azul doit longer un moulin à canne à sucre, propriété de la seule famille espagnole du village, chasser les biquettes et les cochons qui se tiennent sur le chemin avant d'arriver chez elle. La maison en crépi blanc est un solide cube aux étroites fenêtres.
Les sols sont cimentés. Sous les tuiles, le toit est recouvert de canne à sucre creuses, serrées les unes contre les autres, qui protègent de la chaleur. Elle a une taille suffisante pour que Jimena, la mère d'Assoul, et ses 9 enfants se sentent bien. Les murs sont défendus par des coffres en bois qui servent de bancs et sont recouverts de tapis en laine à rayures fuchsia, turquoise, jaune. Ils servent de couverture en juillet et en août, les mois les plus froids. À l'intérieur de ces bancs sont conservées des assiettes en terre cuite, peintes de fleurs vert pâle, d'autres en étain. Tous les meubles, coffres, lits, tables, chaises ont été fabriqués par le menuisier du village. Les assiettes aux fleurs vertes sont cuites par le potier et peintes par sa femme. Les couverts en étain viennent de la mine voisine. Seuls les tapis sont tissés dans la montagne. Au premier étage, il y a deux chambres, une pour les quatre filles, une autre pour les cinq garçons. Rimena dort dans un angle de la pièce du rez-de-chaussée, protégée par le seul meuble ancien de la maison. Une armoire sculptée qui vient de la famille de Roy, son mari, et où sont rangés les vêtements de deuil, ainsi que les costumes laissés par le défunt. Le premier dimanche de chaque mois, Rimena pose de grandes bougies blanches à même le sol devant l'armoire.
Elle les allume. Si les bougies coulent très lentement, la flamme bien droite, cela signifie que votre père est content, commente-t-elle. Si la flamme coule vite ou de travers, c'est mauvais signe. Des années après la mort de son mari, qui l'a si maltraité, Rimena le craint encore. En 1968, à Tchouki-Tchouki, il n'y avait ni téléphone ni poste. Mais le Dodge blanc s'arrêtait tous les dimanches, débarquant ses ballots de toile, des poules, des baquets de plastique et ses bonnes et mauvaises nouvelles. Azul avait 3 ans, Roy avait encore eu le temps de faire un dernier, Julio, un gros garçon qui avait décidé de consoler sa mère en riant dès qu'il apercevait son visage. Roy n'était pas revenu mourir à la maison, elle avait appris sa mort 1 mois après son enterrement. On disait qu'un mari jaloux l'avait tué après l'avoir découvert, la culotte baissée, cachée par un rideau de canne à sucre. Il n'y avait pas de preuve qu'il avait couché avec cette femme, elle se tenait à une dizaine de mètres, les mains lissant ses cheveux, c'était plausible, vu sa mauvaise réputation, un baiser. Son corps fut convoyé avec son tracteur, car tout le monde savait que cet engin était sa plus grande fierté. Il est enterré à Cochabamba, la ville fertile, presque douce, à l'immense marché de fruits et légumes de la capitale quechua. On avait omis de prévenir Rimena, qui était pourtant sa femme, bien qu'il ne l'eût pas à épouser à l'église, et la mère de ses 9 enfants. Rimena pleurait son mari et se maudissait de le pleurer. Puis un matin, elle pleurait depuis 181 jours, elle comprit. Elle se réveillait à 5h30, le café était moulu de la veille, elle ajouta une pincée de gingembre et une autre de noix de muscade. Elle imaginait que son mari allait revenir. Elle était prête à tout pour le satisfaire. Elle sortit dans le jardin, elle ramassa une mangue sur le sol. Et puis tout d'un coup, elle ne l'aima plus, il ne lui manqua plus. Les manguiers et tout le reste lui appartenaient. Son seul devoir était de respecter l'âme de Roy et de perpétuer l'abondance au jardin. Elle avait refusé un mariage avec un voisin qui possédait un jardin presque aussi beau que le sien. Elle n'était plus amoureuse, elle ne serait plus jamais. Plus tard, elle a répété à ses filles adolescentes qui partaient une à une de la maison, revenaient enceintes d'un garçon qui les avait oubliées, que l'amour, c'est de la merde. Bien après la mort de Roy, Azul a proposé à sa mère d'aller rencontrer les demi-frères et demi-sœurs que son père avait conçus dans les villages de la province. Rimena a dit non. Elle avait suffisamment souffert avec ce type qui la battait, qui ne voulait pas l'épouser malgré leurs 9 enfants. Elle n'avait pas de raison d'accepter qu'il lui inflige un tourment supplémentaire.
Colombe Schneck, nous sommes partis donc en Amérique latine. Est-ce que la musique naturelle de ce roman serait latino-américaine ou pas du tout ?
Non. Pas forcément, c'est plutôt la musique que j'écoutais en partant. Je me souviens, j'étais sur le chemin vers l'aéroport. J'étais seule, je partais dans ce pays inconnu, la Bolivie, pour lequel je n'avais aucun lien. Un pays indigène, très catholique. Et c'était plutôt cette sorte de solitude dans laquelle j'étais quand je suis partie vers la Bolivie, voilà. J'allais faire un long vol, me retrouver en terre inconnue. Et c'est plutôt ce sentiment-là qui m'a accompagnée, celui de la solitude, qui est celle d'ailleurs de ces femmes, ces migrantes invisibles qui partent, qui laissent leurs enfants, leur famille derrière eux pour un pays inconnu. Oui, c'est plutôt cette musique de solitude qui m'a accompagnée, plutôt qu'une musique folklorique, gay, qui est celle naturelle qu'on pourrait imaginer quand on part en Amérique latine.
Das Mädchen sprach von Liebe.
Un mouvement des Winterhase de Schubert, parce que je me souviens que j'écoutais voilà, sur mon téléphone sur le chemin de l'aéroport ce mouvement qui est quelque chose de très beau et triste à la fois, dans lequel il n'y a pas de nostalgie, il y a une espèce d'au revoir, c'est good night, bonne nuit. Je quittais un monde que je connaissais, rassurant, dont je connaissais les règles, où j'avais des amis, une famille, dont je connaissais la langue, la culture, pour un pays dont je ne connaissais rien. Voilà, c'était cette bonne nuit, voilà, pour arriver dans un monde inconnu.
Merci, Colombe Schneck.
Wer schaut um deine Ruhe, sollst meinen Tritt nicht hören, sacht, sacht die Türe zu, schreib ihm vorübergehen, Angst vor dir, gute Nacht, damit du mögest sehen, an dich hab ich.
C'était Colombe Schneck qui présentait son roman « Sœur de miséricorde » aux éditions Stock. Feuille. Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Stéphane Desmonts.